Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. C'est le jeudi de fin d'après-midi, la fin d'après-midi du jeudi et c'est la reprise. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui je ne suis pas seule en studio, ils sont quatre avec moi. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, il y a Isabelle, Agnès, Xavier et Christelle. Et ils sont tous les quatre là pour nous parler d'un sujet brûlant, c'est le cas de le dire, et d'un recueil de poésie qui s'appelle Gaza brûle et le monde regarde. Un recueil de poésie mais qui parle de Gaza, bien sûr, et dont les bénéfices seront versés à Oxfam dans le cadre de son travail sur ce sujet. Aujourd'hui, les invités qu'on a, ce sont les éditeurs du recueil, Xavier et Isabelle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Qui ont aussi participé à son écriture, à Christelle qui a participé à son écriture.
Aussi,
oui. Et Agnès qui représente Oxfam. Bonjour à tous les quatre. Donc, j'avais d'abord peut-être envie de commencer par le commencement, par la genèse de ce recueil. Est-ce que Isabelle ou Xavier, vous voulez un des deux prendre la parole et expliquer ce qui a donné l'étincelle de ce recueil? Isabelle?
Oui, alors un jour, on était à une soirée poésie et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des difficultés à l'écoute d'un texte sur Gaza que Christelle a écrit, des difficultés à réagir à ce qui se passait, que ces nouvelles qui nous arrivaient provoquaient comme un silence et, bon, je suis un peu désolée du qualificatif que je vais ajouter, mais assourdissant, et que finalement on était un peu anesthésiés par ce qui se passait, et que nous, en tant que écrivains ou écrivaines, on avait peut-être la possibilité d'utiliser les mots pour pallier à ce sentiment d'impuissance.
Et c'est comme ça qu'est né le livre, et donc qui est un collectif de poètes, d'écrivains. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés? Comment c'est créé? Alors, à partir de cette urgence d'utiliser les mots pour dire et pour faire, pour agir finalement, comment est-ce que la machine s'est mise en route? Je vois Xavier qui est au pin du chef, donc voilà, comment c'est concrètement c'est fait cet agglomérat de différents poètes?
C'est-à-dire que Isabelle et moi, bon, on travaillait déjà ensemble, on a édité plusieurs ouvrages, et donc on a naturellement été à la rencontre de poètes et de poétesses que l'on connaissait, et entre autres on a eu toutes des acceptations, quoi. Et je pense que ce qu'on partageait tous, c'est ce refus de l'impuissance, ce refus de la résignation, et cette envie de mettre des mots et par le sensible de pouvoir toucher, s'exprimer et sortir de cette lourdeur aussi.
Et justement, très concrètement, peut-être je m'adresse à Christelle, mais vous avez tout écrit, mais à Christelle ici, qui poétesse, et peut-être qui a servi de détonateur, puisque c'était après un de vos textes.
Et je l'apprends.
Voilà. Mais comment on met des mots, justement, sur de tels
Alors, c'est bizarre, parce que c'est plutôt comment on ne met pas de mots.
D'accord.
Ou pourquoi on ne met pas de mots. En fait, c'est très très compliqué de... Enfin, moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent là et qui sont dans le même cas, mais c'est très compliqué de ne rien faire. En fait, on entend les choses, on voit des images, on voit des... Et en fait, c'est l'enfer sur Terre. On se dit, mais on est arrivé où, là, maintenant, pour que l'espèce humaine se détruise à ce point-là? Oublie qui elle est. Enfin, il y a quelque chose de l'indicible. Ou si on veut pouvoir vivre et dormir correctement, moi je sais que pour dormir, il faut que je puisse au moins avoir écrit des choses ou fait quelque chose, agi. Et donc voilà, c'est de là que ça vient, c'est qu'il faut à un moment donné dire des choses, parce qu'on ne peut pas aller là-bas et arrêter le conflit. Ça, je veux dire, si on pouvait le faire et faire « Maintenant, ça suffit !» Ce serait super, mais ça ne marche pas. Donc voilà.
Et vous, Isabelle et Xavier, comment, puisque vous avez participé aussi à l'ouvrage, comment est votre faire de pour écrire?
Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai vécu 4 ans au Proche-Orient, dont la Palestine, et que j'écrivais des poèmes à l'époque déjà pour faire face à ce sentiment d'impuissance et ne pas me résigner. Et c'est en entendant Christelle que je me suis dit, mais finalement, ces poèmes sont toujours d'actualité. Et donc, mon urgence, elle était en 2002. Et à cette époque-là, donc, j'avais fait un recueil qui s'appelait « Lettre aubergine ».
Oui. C'est-à-dire que aborder un génocide, c'est compliqué. Il y a évidemment beaucoup de silence autour d'un génocide. Donc c'est un acte de lucidité aussi de prendre conscience et de pouvoir y mettre des mots, même si la parole ne remplace évidemment pas l'action. Elle peut-être la rendre possible malgré tout. Et nommer ce qu'il se passe, c'est déjà un petit peu sortir d'une forme de brouillard, en tout cas dans lequel on est pris. Donc c'est-à-dire qu'on ne laissera pas l'histoire être racontée à travers des mots qui neutralisent la souffrance des victimes. Et c'est voilà l'enjeu du projet.
Oui. Et face à ceux qui pourraient dire, justement, les mots ne suffisent pas, qu'est-ce que vous êtes tenté de dire ?
Ben, je suis complètement d'accord, les mots ne suffisent pas. Le seul truc, c'est que nous, on n'a que ça comme outil, malheureusement. Quand on est... là, on est impuissant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas arriver... on rêverait d'arriver aux Nations Unies et puis de retourner le truc et de changer la situation, mais en fait, on n'a pas les outils pour. Et la seule chose qu'on a, c'est des mots qui peuvent peut-être faire bouger des opinions publiques et des choses qui font que, avec la masse et les gens, ben, peut-être qu'à un moment... on sera entendu et surtout, on pourra peut-être remonter le moral des gens sur place, quoi.
Isabelle ?
Je pense aussi qu'ils peuvent faire témoignage, ces mots, et résister à l'anéantissement. Alors, c'est assez symbolique, mais c'est un peu l'effet que ça m'a fait quand j'ai entendu Christelle. Je me suis dit, mais moi, mes poèmes, ils datent de 2002 et j'ai l'impression qu'ils sont tellement contemporains, si ce n'est que l'horreur s'est ajoutée à l'horreur. Et donc, je pense que c'est important de laisser des traces. Gaza a quasi disparu de la carte. Il me semble que ces traces... de ces humains qui, face à l'inacceptable, utilisent les ressources qu'ils ont pour le dénoncer, je pense que ça laisse un peu d'humanité dans cette horreur.
Et particulièrement, qu'est-ce qui t'avait rendu sensible dans les mots que tu avais entendus de ce poème C'est pas celui qui est dans l'ouvrage aussi, c'est celui qui est... Ben on va l'entendre alors, mais qu'est-ce qui t'avait bousculé?
En fait, c'est ce que Christelle avait saisi, c'est-à-dire un fait insignifiant, un homme qui va pêcher du poisson. Et ce fait insignifiant devient quelque chose de l'ordre de l'exploit, vu la situation. Et c'est ce côté vraiment sensible, au plus près de l'humain, de ce qu'il peut traverser, de la petite joie qu'il peut avoir à se faire griller un poisson, qui m'avait émue.
Et ben, peut-être on peut entendre.
C'est le moment, c'est l'instant.
C'est le moment, si
allez.
C'est possible.
Occuper l'occupant. Les bateaux, le roulis, le tangage, l'éclat du soleil qui sanctifie les vagues, les chansons, les rires d'un bateau à l'autre, le drapeau qui rassemble, le langage simple, parce que c'est Babel sur chaque embarcation. Puis les navires militaires, les drones, les colsons, les armes, les gaz et les coups, pour du lait pour bébé, des pâtes... et de l'aspirine. Des chants de paix étranglés dans les gorges désarmées et les bateaux nombreux sont pris pour cible. À raisonner, quel mot peu raisonnable. Tous les regards sont fixés sur les moyens colossaux déployés pour arraisonner du lait pour bébé, des pâtes et de l'aspirine. À l'abri des regards, le long d'une mer d'habitude assiégée, des êtres humains pêchent, libérés pour un instant de l'étau qui leur broie l'estomac. 1, 2, 3, soleil, un filet, un poisson, un filet dans la mer, un poisson pour le soir. Occuper l'occupant, avec du lait pour bébé, des pâtes et de l'aspirine, avec des drapeaux, des chansons, des rires. Occuper l'occupant avec des messages à la craie, des prénoms psalmodiés, avec nos mots, nos fleurs, nos cris, pour que les filets de pêche apportent la joie de l'autre côté, le temps d'un poisson grillé à partager. Nous sommes des cailloux minuscules dans la puissante chaussure qui écrase. Nous sommes la corrosion sur l'acier des tanks. Nous sommes le petit accroc dans leur costume trois pièces, et cet accroc, un fil infime. On tire dessus et le puissant est nu. Il nous faudra du temps, des larmes et de la souffrance. Il nous faudra des fêtes, des mains serrées, des doigts entrelacés. Il nous faudra des rires, des danses et des banquets. Ils vont vite, nous allons meilleur. Ils vont fort, nous irons robustes. Nous sommes le nombre, nous coupons les barbelés, nous fissurons les murs, nous occupons l'occupant.
Merci.
Je vous en prie.
Et le titre, c'est donc ?
Occuper l'occupant.
Occuper l'occupant. Et merci beaucoup. C'est vrai que c'est très... C'est limpide, c'est glaçant. C'est beau et glaçant à la fois.
Oui.
Et j'avais envie de rebondir aussi, parce que donc Agnès, vous êtes là, vous représentez Oxfam. Il y a quelque chose de concret qui va se faire, si on peut, enfin c'est concret d'écrire et c'est concret de poétiser, mais d'encore plus concret, qu'est-ce que vous pouvez dire vous de l'action d'Oxfam d'une part et de ce que concrètement ce livre, les suites de ce livre pour Oxfam.
Merci beaucoup hein, de m'avoir invitée, et vraiment merci beaucoup aux écrivains et aux artistes. Je trouve que c'est de nos jours tout aussi important en fait ce qu'on fait en action concrète, c'est vraiment des lumières. Pour continuer à faire vivre l'humanité. Oxfam est présent depuis les années 50 en Palestine, en fait. Hein, donc c'est vraiment on travaille avec les Palestiniens, avec des collègues palestiniens. C'est un terrain c'est un pays qu'on connaît très très bien. Et après le 7 octobre, en fait, toutes les actions à Gaza ont complètement changé, en fait. Oxfam n'a pas du tout vocation à être une organisation humanitaire d'urgence, mais c'est malheureusement vers quoi nous nous sommes déplacés.
Et donc concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, on est passé de quoi à quoi ? Pour que les auditrices comprennent très concrètement.
Alors, c'était déjà une population en souffrance, en fait, qui avait été bombardée, qui avait connu des offensives militaires, comme ça, toutes les X années. Il y avait au moins 6 offensives militaires depuis 2007. C'était une population sous blocus aussi. Et donc, quand vous regardez un peu les évaluations sur les actions à faire avant octobre 2023, vous voyez qu'il y avait aussi beaucoup d'assistance psychologique, et puis il y avait aussi beaucoup de problèmes d'insécurité alimentaire. Donc, ce qu'on était en train de faire, c'était vraiment aider les agriculteurs sur place, les moyens de subsistance. Et puis octobre 2023 est arrivé, et là c'est vraiment de l'aide d'urgence dans un contexte très très particulier, qui est un contexte génocidaire. Et ce qui est très très marquant dans nos actions humanitaires, c'est le fait que c'est l'accès, c'est le problème de l'accès. C'est une population qui est maintenant complètement sous blocus, et c'est pas le cessez-le-feu, et je mets des guillemets, de octobre 2025 qui a changé les choses. Actuellement, ce qui rentre à Gaza, c'est des produits commerciaux, et c'est bien dans ça des besoins, et c'est des produits surtout qui ne sont pas du tout adaptés à une population qui a souffert comme elle a souffert, contre laquelle la famine a été utilisée comme une arme de guerre. C'est du chocolat, c'est des tablettes, c'est des voitures, en fait. Et donc, toute l'aide humanitaire, elle ne rentre pas. Et je vais vous donner des exemples, quoi. C'est que les Israéliens utilisent une liste complètement opaque, à laquelle nous n'avons pas accès, qui s'appelle la liste des biens à double usage. Et pour eux, dès qu'il y a un bien qu'ils considèrent à double usage, donc un usage autant civil que militaire, ils ne le font pas rentrer. Et donc ça concerne par exemple les frigos pour conserver les vaccins qui sont alimentés à l'énergie solaire. Ça, c'est très important à Gaza, parce qu'il y a aussi d'énormes problèmes d'accès à l'électricité. Et ben, par exemple, ces frigos ne rentrent pas. Donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de conséquences et de vaccination pour les enfants.
Oui. Et donc ça, c'est devenu un combat d'urgence pour Oxfam.
C'est ça, c'est devenu un combat d'urgence pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'on arrive à faire si on n'arrive pas à faire rentrer notre aide ? Ben, on se fournit sur le marché commercial. Et surtout, on essaye de faire des actions qui ont essentiellement besoin de ressources humaines. Donc ça veut dire concrètement qu'on va réparer les canalisations d'eau, les conduites d'eau qui ont été endommagées. On va faire du... Alors, je vais essayer de trouver les mots en français, parce que c'est un domaine dans lequel on parle essentiellement en anglais. Mais on va remplir des camions-citernes pour que les personnes aient accès à l'eau potable. On va faire beaucoup, beaucoup d'aide psychosociale, beaucoup d'aide psychologique aussi. On a créé des foyers spécifiquement pour les femmes et les enfants aussi. On va fournir des intrants agricoles, beaucoup aussi de cash. On va donner du cash aussi pour les personnes pour qu'elles puissent au moins répondre à leurs besoins primaires et premiers. Mais c'est très très compliqué. Enfin, j'ai dit, il y a le problème de l'accès au matériel, mais c'est pas que ça en fait. C'est aussi c'est la ressource humaine. Nous, on a une petite opération, enfin en tout cas de collègues Oxfam, ils sont une trentaine, parce que on travaille essentiellement avec des organisations partenaires qui permettent d'avoir un accès plus direct aux populations et comprendre un peu mieux les besoins aussi. Mais ces 30 collègues, en fait, ils ont jamais été remplacés, ça a toujours été les mêmes personnes. Dans une situation comme celle-ci, normalement, il faudrait des armées d'humanitaires qui puissent rentrer, des ingénieurs, des médecins, pour pouvoir aussi relayer les populations sur place, et les médecins, et toutes les humanitaires locaux. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Ils sont épuisés. Et nous, avant, on arrivait à faire rentrer deux humanitaires internationaux, coordinateur humanitaire, coordinateur sécuritaire, et qui étaient relayés toutes les 6 à 7 semaines. Mais maintenant, les Israéliens ne permettent plus à ce que nous puissions faire rentrer du staff internationaux. Donc c'est aussi une question de matériel, mais de ressources humaines. Mmh. Et puis après, je pourrais vous parler pendant des heures de toutes les peaux de bananes aussi que les Israéliens nous mettent sous les pieds, et toutes les embûches aussi. Mmh. Voilà.
Oui. Et donc concrètement, ici, ce livre, et puis d'autres actions, évidemment, mais... Comment ça va fonctionner? Comment, si moi j'achète ce livre, qu'est-ce qui va se faire, peut-être, Xavier?
Alors, les bénéfices, nous, enfin, en tout cas, avec la maison d'édition, on a un accord, et donc l'ensemble des bénéfices seront reversés pour le projet Oxfam. Et donc, c'est vraiment notre volonté, hein, première, c'est de soutenir celles et ceux qui résistent, qui soignent, qui traduisent, qui relayent, qui boycottent, voilà, c'est de relayer et de tenter de soutenir, de montrer quelque part l'intérêt plus que nécessaire et humain de leurs actes et de leurs actions, quoi.
Et très concrètement, justement, quand une action comme ça soutient Oxfam, ou quand nous, en tant que personne, hein, on voit parfois des personnes qui demandent qu'on soutienne Oxfam dans la rue ou autre, très concrètement, comment ça se passe en fait?
Eh bien alors après, c'est de l'argent qui est envoyé dans un pot commun de la réponse humanitaire en Palestine, parce que bon, c'est la réponse humanitaire à Gaza, et donc comme je l'ai dit, après c'est permettre de payer des salaires, de verser du cash à des familles, d'acheter aussi sur le marché local des kits d'hygiène, etc. Donc on fait ce qu'on peut, quoi, mais ça n'est néanmoins très important. Mais maintenant aussi, on a une réponse humanitaire d'urgence en Cisjordanie, et on en parle très très peu. Mais la Cisjordanie aussi, avant, c'était vraiment des actions de développement pour aider les agriculteurs sur place. Mmh. Et on le voit par rapport aux produits que Oxfam vend dans ses magasins, quoi. Oui. Que ce soit le couscous palestinien, les dattes ou l'huile d'olive. On continue à les vendre, c'est très compliqué. Mais maintenant, on a des projets d'urgence aussi en Cisjordanie, parce qu'on a une population qui est sous le coup d'une opération de nettoyage ethnique. Et vous avez eu, par exemple, 30 000 personnes qui ont été déplacées l'année dernière. Mmh. Et donc, il faut venir en aide à ces personnes-là. Et donc là aussi, c'est des kits d'urgence. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de faire rentrer du matériel et d'avoir accès à du matériel, mais c'est aussi de l'aide d'urgence à ces personnes, quoi.
Et de l'aide d'urgence du même type, humaine, psychosociale,
mais là, on peut faire
du
beaucoup...
cash aussi.
Non, là, on peut faire beaucoup plus d'aide matérielle, en fait.
Aide matérielle, voilà. C'est-à-dire très concrètement, les frigos sont pas
voilà,
interdits.
Pour le coup, là,
il y a pas de liste.
Voilà, c'est ça. Là, pour le coup, il n'y a pas de liste à double usage, donc oui, donc ça peut être vraiment des kits de premier secours, des kits d'hygiène, ça peut être du matériel agricole, c'est vraiment des matériels de subsistance immédiat pour que ces personnes puissent aussi continuer à survivre.
Et votre regard à tous les quatre, la situation est catastrophique, hein, on l'entend, on le sait, on le voit, on le vit à distance, ce serait quoi pour vous un futur espéré, même si on est dans l'utopie? Voyant la situation, qu'est-ce qui vous semble?
Ce serait super que les gens qui ont un pouvoir de décision arrivent à prendre leur courage en main. Et puis, l'année dernière, j'ai essayé de faire une action où j'allais lire le nom, le prénom des enfants morts de moins de 18 ans devant les établissements publics. Et j'ai l'impression que même là, on est dans une petite ville comme Jambloux, et c'était compliqué pour le pouvoir politique local de même pouvoir dire quelque chose contre ça. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui, même dans un pouvoir local, fait « Oh non, non, on ne peut pas en parler, on ne peut pas en parler. » Mais à un moment donné, si. En fait, il faut que ça, faut en parler vraiment très fort. Il faut que les gens aient le courage de dire « On peut prendre des décisions, on peut boycotter Israël. On peut leur dire « Maintenant, ça suffit. » Enfin, il faut boycotter un maximum et il faut des vraies punitions. Quand on voit ce que ça fait même... Les gens s'en fichent, même on les laisse faire l'Eurovision. Alors c'est un autre débat, ok, c'est la culture, tout ce qu'on veut, mais on met quand même un focus sur des gens qui sont de véritables oppresseurs. Alors pas tous et pas toutes, on ne va pas généraliser, mais le gouvernement en place, c'est un gouvernement génocidaire. Ce sont des gens, il faut les arrêter en fait, il faut les arrêter, vraiment. Et nous, on a des mots, et Oxfam a... essaye de faire passer des frigos, nous on essaye de faire passer des mots, c'est très peu, mais au moins c'est ça quoi.
On cherche à refuser que le monde ne s'habitue à ce qui est pour nous totalement inacceptable et de rappeler que face à la destruction, face à la déshumanisation, nous sommes tous responsables de ce qui se passe, d'un laisser-faire qui témoigne d'une indifférence face à un vrai génocide, face à des réalités concrètes. Voilà, nous, c'est notre boulot par les mots, par la plume, de tenter de rappeler, de se le rappeler aux consciences et de tenter de donner un espoir humain, même si évidemment on partage à différents moments une forme de résignation, mais c'est une lutte en tout cas pour ne pas accepter.
Agnès ?
Moi, ce qui me donne espoir aujourd'hui, c'est que je vois que les opinions publiques, elles sont en train de changer. Et qu'il y a évidemment un décalage énorme entre le pouvoir politique et les opinions publiques, mais on a vu quand même que c'est une situation qui a ouvert les yeux politiquement à beaucoup de personnes. On a vu une nouvelle génération qui a fait des armes politiques sur la Palestine. Et ça me donne beaucoup d'espoir, en fait, de me dire que, voilà, c'est... à un moment, le rapport de force, il va changer. C'est pas possible, ça peut pas continuer. Et donc, on voit aussi des municipalités, comme par exemple la municipalité de Gand, qui a pris des mesures aussi par rapport à des questions de marché public, qui refuse de se fournir chez certains fournisseurs israéliens. Et ça donne pas mal d'espoir, quoi. Et je crois qu'il faut vraiment continuer, quoi. Je suis très admirative de votre travail. Un point de vue personnel, là je suis en train de lire un Stefan Zweig, Mémoire d'un Européen, et on voit que dans ces moments très 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 sombres, il y a quand même des personnes et des artistes qui ont essayé comme ça de porter encore une flamme, et je pense que c'est très important pour que à un moment ou un autre, enfin, il y ait une lumière, quoi. Et donc j'ai beaucoup de gratitude par rapport à votre ouvrage et ce que vous avez fait, parce que c'est ça qui permet de porter une lumière et c'est ça qui à un moment permettra aussi aux choses de changer.
On l'espère.
Oui, Isabelle.
Je ne sais pas si vous l'entendez, comment il y a de l'émotion dans nos voix. On est touché. Je voulais préciser qu'on a demandé donc aux personnes qui participaient à l'ouvrage de parler d'ici, donc de comment ils percevaient ce qui se passait là-bas, pas du tout de faire comme si on était des Palestiniens ou qu'on avait la possibilité de se mettre à leur place, ce qu'on n'arrivera pas à faire vu l'état de détresse dans laquelle ils sont et depuis des générations. Moi, j'étais présente lors de la seconde intifada et c'était vraiment très compliqué. C'était déjà ce qu'on qualifiait d'impensable et d'intenable. Et je me souviens que le consul belge de Palestine avait dit, je lui avais demandé comment il tenait le coup. Ils étaient remplacés tous les 2 ans, là. Et je lui avais demandé comment il tenait le coup. Il m'avait dit, parce qu'un jour, il y a un homme qui. Et cette phrase m'est restée. Alors, je sais que je ne serai pas cet homme qui, mais j'espère participer à ce que celui-ci advienne.
Être la femme par qui ? Ok. Et peut-être on peut citer les quelques mots de la postface de la... Il reste, Xavier.
Oui. Nous étions sourds quand les chars grondaient au loin, quand les missiles ouvraient la chair des cieux. Nous n'avons fait qu'écrire des poèmes enfouis sous la peau des silences. À faune, nous n'avons pas hurlé quand les drapeaux saignaient sur les corps d'enfants. La justice était en berne, le kéfier entre les draps. Nous n'avons fait que plier sous les discours fauves des chiens qui aboient l'or et crachent la loi. Les puissants nous ont vidé les poches pour graisser leurs bombes. Nous restions dociles dans les manifs dispersées. Nous n'avons pas pleuré de l'oubli, et l'oubli nous a bercés. Nos écrans et nos séries ont tué la honte. Nos cécités sont occidentales. La distance est une frontière de confort. Mais aujourd'hui, écoute, il reste un espoir désaccordé. Un cri pour les peuples, pour les vivants. Un cri sans haine qui peut lever les tempêtes. Nous voulons la paix pour les peuples lointains et ceux qui nous ressemblent.
Et cet ouvrage a été donc écrit par une série de contributeurs. On peut citer, c'est Christelle Delbrouck, c'est ça?
Oui.
Il y a Laurence Vielle, Lisette Lombé, je pense.
Oui, oui. Julie Lombé, Asma Soulista, Laura Schlichter, pardon, Aurélien Donny. Tu as la liste toute?
Caroline Bouchoms, Caroline Boulor, Marie Dara, David Giannoni,
Dominique Van Cottem, Monsieur Treize, Manza,
Mel Moya,
Jacinthe Mazzocchetti.
Et Juliette Van Poetes.
D'accord.
Il en manque Elia Verdal. Vous voyez, on est nombreux.
Oui, voilà. Moi je voulais redire. Donc Caroline Bouchoms, Caroline Boulor, Xavier Briquet, Marie Dara, Christelle Delbrouck, Aurélien Denis, David Giannoni, Lisette Lombé, Julie Lombé, Véronique Mabardi, Manza, CNN 199, Jacinthe Mazzocchetti, Mel Moya, Monsieur Treize, Isabelle Serret, Laura Schlichter, Asma Soulista, Françoise Sturz, Dominique Van Cottem, Juliette Van Poetes, Elia Verdal et Laurence Vielle. Et où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? Qui est donc édité par Kartala B dans la série Lettres dissidentes.
Alors les éditions Kartala Belgique, qui sont des éditions, qui est une édition engagée et à la fois qui tente aussi de contribuer différemment, c'est-à-dire avec un souci écologique, hein, de ne pas pilonner la moitié des ouvrages comme le font beaucoup d'éditeurs. Et donc les ouvrages se trouvent en ligne sur toute une série de sites, mais on collabore particulièrement avec le site de Corsair Éditions et où on peut le commander facilement.
D'accord. Donc corsairedition.be.com.
Quelque chose comme ça.
Corsair Éditions. Pour les auditeuristes, s'ils veulent se procurer l'ouvrage qui est au prix de...
Qui est au prix de 14,99€.
14,99€. Mais voilà, mais merci à tous les quatre de nous avoir parlé de cet ouvrage, d'avoir rappelé la situation terrible de Gaza et de la Cisjordanie, d'avoir rappelé qu'effectivement, il y a des endroits qui brûlent et qu'on ne fait que regarder et qu'il est temps de mettre des mots pour aller aussi vers l'action. Pour encourager l'action. Merci à tous les quatre et bonne suite à cet ouvrage Gaza brûle et le monde regarde. À bientôt.
Merci. Ah.